portrait de l'artiste en travailleur. Dans toutes les grandes villes d'Europe, des artistes créent, produisent, rencontrent ou tentent de rencontrer des publics, nous émeuvent ou nous font réfléchir et essaient aussi de vivre. Pour exister, certains par tempérament, en fonction de leur parcours mais aussi de leur ville d'ancrage, se tournent vers les pouvoirs publics, d'autres vers les industries culturelles, d'autres encore essaient d'inventer des troisièmes voies, en montant des lieux, des événements, en expérimentant des économies hybrides. Presque tous cherchent également à se déplacer vers d'autres territoires européens. L'artiste est mobile, par choix et par nécessité.
À Marseille, ville riche en production artistique et musicale, mais toujours relativement pauvre en possibilités de développement économique, les musiciens et les équipes artistiques tentent de mieux connaître comment cela se passe ailleurs et de sortir de la maison pour mieux y revenir. Mobilhome comprend une série de documentaires radiophoniques que Grenouille vous propose tout au long de l'année pour découvrir les scènes musicales indépendantes de ces autres maisons européennes.
Ce périple sonore à travers des capitales d'Europe se clôturera en novembre, en particulier au cabaret aléatoire de la Friche Label de Mai, avec concerts, rencontres, avec des labels, lieux, producteurs, médias indépendants, venant des six villes explorées, Helsinki, Bruxelles, Riga, Londres, Belgrade et Berlin. Est-ce qu'il y aurait un son à Bruxelles ?
Ouais, c'est le son du tram. C'est le son du tram et je dirais, c'est le son du tram qui se trouve à la station Le Monnier où tu as le croisement avec toute une série de rames. C'est souterrain, tu as une réverbe incroyable là-dedans et c'est le moment où les trams passent sur les aiguillages et où ça fait un son assez douloureux, mais qui est que tu peux pas retrouver ailleurs, vraiment pas du tout, vraiment.
Bonjour, aujourd'hui Mobilhome nous amène à Bruxelles. La ville est comme on dit cosmopolite, avec ses deux communautés francophones et flamandes. Et ses habitants issus de l'immigration turque, marocaine, congolaise, pour ne citer que les principales. Pendant une semaine, nous verrons Bruxelles sous le soleil. Une chance pour nous, paraît-il. Les connexions Bruxelles-Marseille ayant une histoire assez riche, nous retrouvons vite la piste de quelques-uns des acteurs culturels et artistiques de la ville. Et lorsqu'il arrive que nous nous perdions, les habitants, d'une belle courtoisie, nous remettent sur le bon chemin. Mardi matin, sur la place du Jeu de Bâle, qui accueille le marché aux puces, nous nous retrouvons avec Yves Poliard. Jusqu'à très peu de temps encore, programmateur musical des Halles de Scarbeck, Yves Poliard a derrière lui un long parcours. Programmateur, homme de radio, organisateur ou encore chargé de mission pour la ville. Pendant les deux heures que nous passerons ensemble, au micro et hors micro, Yves Poliard évoquera les musiques qu'il défend, sa complicité avec le Marseillais Eric M et les spécificités culturelles de Bruxelles. Yves Poliard.
C'est un cas un peu spécial parce que c'est une petite ville. C'est une petite ville qui n'est pas coupée en deux, mais où historiquement, c'est un sol flamand avec 80% de francophones qui y vivent. Donc ça veut dire deux communautés représentées avec une minorité qui, quelque part, est la majorité, vu que c'est le droit du sol aussi qui est présent. Ça veut dire deux systèmes de subsidiation. Ça veut dire aussi que Bruxelles est devenue une région à part entière parce que le politique n'est jamais parvenu à trancher sur Bruxelles. C'est-à-dire qu'on a créé, bon, il y a la Wallonie avec tout son système législatif et de subsidiation, etc., qui fonctionne. La Flandre, pareil, donc avec son gouvernement, son système, etc. Pour Bruxelles, il y avait un hic. Donc ils ont décidé, le politique a décidé que Bruxelles deviendrait une région à part entière. Avec quand même un souci, c'est que Bruxelles n'a aucune... Enfin, les autorités bruxelloises n'ont aucune compétence culturelle. Et donc, quand on a créé Bruxelles 2000, le but était de dire, mais si, il faut qu'il y ait une compétence culturelle à Bruxelles. Pourquoi ? Ben parce que c'est la capitale de la Belgique, c'est la capitale de l'Europe. Et quelque part, c'est des myriades d'associations, qu'elles soient flamandes ou francophones, qui se disputent un territoire et qui sont quelque part peut-être instrumentalisées par le politique, qui utilisent à travers elles une arme pour gagner du pouvoir. À un moment donné, par exemple, il y a de ça 2 ou 3 ans, le politique flamand a carrément arrosé de fric toute une chier d'associations néerlandophones sur Bruxelles, justement pour prendre du pouvoir. Je parle d'associations, même de petites associations, même d'associations de culture émergente, etc. Ils ont été carrément arrosés de fric pour pouvoir se développer par rapport aux francophones. Or, ce qui est en train de se passer, c'est que ces deux communautés qu'on disait antagonistes, bon, finalement, se sont fait manger par la dimension multiculturelle de Bruxelles. C'est-à-dire qu'on a vu arriver ici à Bruxelles, en peu de temps, énormément, vu la communauté européenne, vu tout ça, vu les boîtes de lobbying qui tournent autour de ça aussi. On a vu arriver plein de nationalités fort différentes, au niveau aussi des réfugiés, qu'ils soient politiques ou non, etc. Au niveau de l'ouverture aux pays de l'Est, par exemple, le quartier où j'habite, à Saint-Gilles, il y a énormément de Russes qui y sont depuis 2-3 ans, de Polonais... Donc c'est des ajouts culturels et donc du coup, tu vois, ça désarçonne un peu le politique. Du coup, maintenant, on se retrouve plus du tout dans un combat où les associations sont instrumentalisées par le politique pour gagner du terrain, mais on est sur une espèce de terrain qui est complètement mouvant maintenant, où ça devient super compliqué de savoir qui fait quoi et de savoir où tu donnes ou tu ne donnes plus, tu vois. Et donc, du coup, pour moi, le terrain devient intéressant maintenant. C'est que c'est une espèce de flou artistique que je trouve assez pertinent, où des associations se créent ouvertement en disant, nous, on est à la fois flamand et francophone, où tu retrouves des gens des deux communautés, alors qu'à, je te parle, il y a 5 ans de ça, mon ancien collègue du Beurs, Dirk Segers, se faisait taper sur les doigts quand il accueillait un spectacle francophone chez lui. Tu vois ? Or, maintenant, ce truc, les gens n'y pensent même plus. Je veux dire qu'il y a des spectacles qui sont présentés, spectacles en langue néerlandaise, qui sont présentés, surtitrés en français et en anglais. En anglais, pourquoi ? Ben, du fait de cette multiculturalité qui prend de plus en plus de place. Et ça, c'est assez étonnant, je veux dire, comme situation. Et à l'intérieur de ça, tu as cette petite superficie, donc... que j'appelais tout à l'heure le Pentagone, qui est le Bruxelles-Ville, sur lequel tout le monde veut être, parce que c'est là que ça se passe, si tu veux, la vie elle est là, c'est un peu... Marseille, ça voudrait dire, pas autour de la Canebière, mais en tout cas, tu vois, tous ces espaces, c'est certainement pas le Merlan, ou, tu vois, c'est pas l'Estac non plus, quoi. Tu vois, c'est vraiment être dans le centre. Et donc, tu as une espèce de question permanente qui est, est-ce qu'on s'associe ou est-ce qu'on se combat ? Et tu as une série de petites associations qui se sont créées pour justement favoriser l'association. Je parlais tout à l'heure d'une ASBL comme City Mind. City Mind, c'est un peu son rôle d'être une structure mouvante qui va, avec un projet, qui va d'association en association en essayant de les fédérer sur un projet et de montrer la visibilité dans un autre lieu encore, tu vois. Donc, c'est l'idée de réseau qui fonctionne. Mais ça reste quand même, avec certaines associations, super dur de bosser parce que justement, c'est souvent lié au lieu. En fait, une association, aussi petite qu'elle soit, que ce soit même un squat, à partir du moment où il y a des briques autour d'eux, là, ça devient difficile, tu vois. Ça devient difficile parce que c'est chasse gardée, là, tu vois. Et c'est comme ça que se développe, et c'est un truc auquel moi, je suis en train de réfléchir. Donc là, maintenant, je suis en vacances avec et sans S. Et je suis en train de me dire, bon, est-ce que je vais continuer à faire de la programmation ou pas ? Et je me dis, est-ce que je dois forcément recréer un lieu ? Je te disais tout à l'heure que pour moi, sur Bruxelles, il manquait une case maintenant au niveau de la programmation musicale, qui était un peu la case de la carte blanche, de l'aventure, du risque, du danger. Cette case-là, elle manque. Est-ce que moi, je veux relancer absolument un autre lieu en plus, tu vois, sur Bruxelles, ou à contrario, peut-être avoir une structure qui est une structure virtuelle, tu vois, qui fonctionne au projet et qui, comme un coucou, tu vois, va un mois dans tel endroit proposer tel projet en lien avec ce que ces assos font dans ce lieu-là, tu vois, et où toi, tu travailles en résonance avec ce qu'ils font, mais avec le médium que toi tu amènes et que tu bouges comme ça de lieu en lieu, c'est ce qu'une série de gens sont en train de faire, tu vois. Et ça, moi, je trouve ça pertinent. Et là, on n'est pas loin de Deleuze non plus, me semble-t-il.
Cette situation que tu décris, on commence à en voir les effets sur la production artistique musicale, ou est-ce qu'elle a des effets sur une production artistique musicale bruxelloise?
Oui, parce que y a pas mal de gens qui se fédèrent, mais qui se fédèrent sans carte de parti, je dirais. Donc il y a une série de... Il y a plein de petites scènes à Bruxelles, mais des myriades de petites scènes, tu vois, même au niveau de l'électro. Tu as des gens qui sont dans le pur et dur, qui restent dans le pur et dur, ex-drums and bass, techno, etc. Donc vraiment, des musiques de rue électroniques, je dirais. Tu as une scène qui tourne plus autour de l'électro, mais via les réseaux web et les échanges de fichiers, les Creative Commons, et qui travaillent à ce niveau-là. Et ces scènes se croisent. Ces scènes se croisent, ces gens se parlent. Ça reste quand même très dur de les fédérer autour d'un projet fort. Mais quand il se passe un truc, comme par exemple... l'éviction de Dirk Segers qui défendait ces scènes, ou mon éviction à moi, tu vois que y a des pétitions qui circulent. Et ceux qui nous soutiennent, c'est à la fois les pauses de hip-hop, tu vois, parce qu'on les a soutenus, mais aussi, je sais pas, Laura Waddington, qui est une cinéaste anglaise expérimentale, qui est basée à Bruxelles, et qu'on a défendue aussi. Et tu as une espèce de nivellement, comme ça, de ces cultures, vraiment sur le même pied. Et ça, je trouve que c'est une des particularités de Bruxelles. C'est que il n'y a pas vraiment de hiérarchie au niveau du hip-hop par rapport au multimédia, par exemple. Il y a une forme de... une forme de respect mutuel, il y a une forme d'entente. Il y a aussi une autre association qui s'appelle Constant, qui est là, une association avec des subsides néerlandophones, mais où la majorité des gens qui y bossent sont des francophones. Et ça, c'est une structure qui fonctionne comme ça, qui n'a pas de lieu. Elle a juste des bureaux et elle se déplace en fonction des demandes d'autres associations et où elle vient apporter son know-how. Et c'est une association aussi qui tend à mettre en lumière toute une série de choses qui ne sont pas dites. Elle a notamment un de ses sous-projets qui s'appelle Cuisine Interne. Et c'est un truc tout bête qui est de demander à tous ces gens qu'elle côtoie à travers ses projets simplement une fiche d'identité, une description de ce qu'ils font. Donc ça va de combien tu gagnes, d'où tu viens, est-ce que tu as fait des études, c'est quoi ton métier, t'es programmateur, ça veut dire quoi, comment est-ce que tu fais pour gagner ta vie. Et tout ça, si tu veux, fédère un peu les choses. C'est-à-dire que tu vois moins la différence entre un type qui rame au chômage, parce que finalement, tout est dans tout, tu vois, les choses passent très vite. Tu viens très, très vite quelqu'un qui gagne des sous à plus rien du tout. Enfin, voilà.
C'était le train de 16h42 en provenance d'Anvers.
Nous avons quitté Yves Poliard et la musique du bruxellois Lester Lewitt et rejoignons à quelques centaines de mètres du marché Opus notre prochain rendez-vous. Recyclart, le lieu que nous abordons dans notre périple est né en 2000, installé dans une gare de train encore en activité aujourd'hui. Ce projet, soutenu par les pouvoirs publics, appartient à cette famille des lieux dits intermédiaires ou friches culturelles. On y trouve des espaces de diffusion, plutôt pour des concerts et soirées, des espaces de résidence et d'exposition pour des graphistes, plasticiens ou habitants du quartier, ou encore un chantier de réinsertion professionnelle et un bar. Recyclart coproduit aussi des soirées et concerts avec des organisateurs indépendants, pour la plupart bénévoles. L'une des particularités du projet est sa situation géographique. La gare qui le surplombe aurait coupé la ville en deux. Recyclart se trouve à cette frontière, avec toutes les problématiques urbaines et sociales que cela comporte. Autre particularité, Recyclart donne sur la rue, utilise même la rue et les tunnels comme lieu d'exposition ou lieu de festival. Au moment où nous nous rencontrons avec Marc Jacobs, le programmateur artistique, par ailleurs DJ et critique musical, il est en pleine préparation du festival estival Holidays. Au fil de la discussion, nous en venons à parler de l'esprit du lieu projet et à ses principes de décloisonnement entre les genres. Marc Jacobs.
Mais c'est un peu typique de Recyclard, c'est de ne jamais se cloisonner dans un style. Pour donner un exemple, quand on a commencé, on était très fort branché dans la culture hip-hop, autant donc, toutes les disciplines qui écoulent du hip-hop. À un moment, je trouvais qu'en tout cas à Bruxelles, au niveau hip-hop, ça stagnait, ça n'évoluait pas du tout. J'ai remarqué qu'à Bruxelles, il y avait plein de petites initiatives dans des squats où il y avait une richesse incroyable, où on ne se posait même pas la question de faire quelque chose de multidisciplinaire. C'était quelque chose d'extrêmement naturel. Les gens qui exposaient jouaient aussi dans un groupe et faisaient aussi des projections et avaient un show, un one-man show par exemple. Et donc, c'est ça qui m'a vraiment séduit, c'est ces artistes qui ne se limitent pas du tout à une discipline et qui arrivent à séduire un public par leur énergie surtout. Et donc ça se traduit un petit peu dans toutes les disciplines sur lesquelles ils peuvent mettre la main. Donc c'est cet esprit-là qui est un peu pris en prise sur la programmation culturelle de Recyclard depuis 3 ans. C'est un esprit punk, c'est pas toujours une esthétique punk, c'est pas du tout une musique punk non plus, ça peut être du folk, mais avec un esprit vraiment d'indépendance, de hors mode, hors tout en fait, vraiment quelque chose de très personnel, un mode d'expression très personnel. C'est ça qui me motive vraiment.
Est-ce qu'on peut dire que Bruxelles regarderait plutôt à l'est, plutôt au nord, plutôt au sud, plutôt à l'ouest, ou serait au centre?
Ils regarderaient un peu dans toutes les directions et ils sont aussi au centre. Comme je disais tout à l'heure, il y a l'influence de la Flandre et l'influence de du côté francophone de la Belgique. Et pour certains artistes, on sent très fort l'influence des deux côtés. Et là, je reparle de Recyclard, où on est vraiment un lieu bilingue. On est vraiment un lieu autant francophone que néerlandophone. On accueille des artistes francophones et néerlandophones. Et je pense que quand on voit un petit peu les artistes qui sont passés ici, belges, autant au niveau musique que les arts plastiques ou d'autres disciplines, on a un joli panel des influences. Et il y a un côté très bruxellois dans ce côté bâtard de promouvoir son art, de présenter son art. C'est vraiment un mélange. C'est vraiment un mélange.
C'est sur cette idée de mélange que nous laissons Marc Jacobs et Recyclart aux dernières préparations de leur festival Holidays et que nous partons vers nos prochaines rencontres. Dans ce mobilhome à Bruxelles, et après avoir passé les premières heures en centre-ville, le prochain entretien nous amène en périphérie du centre, au hall de Scarbeck, grande bâtisse un peu intimidante et projet culturel situé dans un quartier populaire. Depuis son ouverture, il y a près de 30 ans, les halles de Scarbeck tentent de concilier programmations artistiques exigeantes et accessibles, travail avec la proximité, réflexion politique. C'est Fabien Ocamp que nous croisons autour d'une boisson locale en fin de journée dans un café à côté des Halles. Fabien Ocamp est l'une des programmatrices du lieu, mais sur des aspects particuliers.
Je vais commencer par t'expliquer comment tout ça est né. Donc, à savoir, c'est trois cycles. Il y a le projet Voisin, le projet Millefeuille et le projet Apache. On est au sein d'une structure, les Halles, qui essentiellement se concentre sur de la diffusion artistique. Et moi, c'est vrai qu'en tant que programmatrice aux Halles, j'ai pas un label. Je ne suis pas programmatrice danse, programmatrice musique. C'est très difficile, en fait, d'accoler un titre à ma fonction. Pourquoi ? Parce que j'envisage les choses de manière plus transversale et pluridisciplinaire. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi en fonction du passé des Halles, qui, en fait, est un passé, au moment de la création des Halles, qui a été fortement marqué par le rapport à la société, à l'environnement, à la politique. Et donc, il y a un héritage aux Halles que je trouvais hyper important de réactiver et d'actualiser. Ça a été une des premières choses. D'autre part, personnellement, moi, la question de l'engagement de l'artiste aujourd'hui dans la société, la question du rapport entre art et politique est quelque chose qui me passionne, quoi, que je souhaitais développer. Et donc, me positionner aux Halles, au sein d'un projet artistique culturel, mais donc à côté de programmateurs qui vont davantage travailler sur l'aspect disciplinaire, tu vois, discipline danse, enfin donc on développe une programmation musicale, danse, etc. Et donc moi d'apporter une espèce de complément qui puisse comme ça faire écho à la fois à cette diffusion, à cette programmation Halles, mais à la fois avec une ouverture sur, ça paraît peut-être très, très ambitieux ou très pompeux comme ça, mais un rapport au monde, quoi. Hein, et donc continuer à questionner cette question de l'engagement, de la résistance aujourd'hui. D'autant qu'on est dans une période où il y a quand même eu tout un bouleversement au niveau de l'économie, de la société. Enfin, il y a pas mal de bousculements sur les formes d'engagement politique. Et ça me semblait important qu'un lieu culturel s'ouvre aussi à ces problématiques-là. Et donc, bon, les Halles, c'est un lieu polyvalent avec trois salles. Et il y avait un espace aussi au sein des Halles qui m'a inspirée, qui me semblait le lieu adéquat pour développer ces deux cycles, qu'un lieu qu'on appelle la cave, et qu'un lieu, en fait, avec une forme de convivialité, qui permet la proximité, l'écoute. Et donc, vraiment, moi, ce qui m'intéressait, c'était créer de la rencontre et du contenu. Alors, j'ai vraiment créé tout d'abord les deux cycles Apache et Millefeuille comme vraiment les revers d'une même pièce, hein, côté pile, côté face. Et en me disant, si on ouvre un espace critique, un espace politique et artistique, on ne peut pas tout faire tout en même temps, mais donc on va en tout cas avoir deux cycles qui sont comme deux fils qui se répondent pas immédiatement pour le public. Je pense que c'est, y a pas forcément les publics qui se croisent sur ces deux cycles, mais en tout cas pour moi conceptuellement ça a un lien. C'est aussi à travers des lectures ou des, notamment, enfin il y avait une citation du cinéaste palestinien Eyal Souleiman qui m'avait très fortement inspirée comme ça, où il disait tout espace politique est aussi avant tout un espace de désir et un espace poétique. Et donc assez naturellement, finalement, se sont créés ces deux cycles, à savoir donc Apache, qui propose des conférences et rencontres politiques, où là donc est invité un intervenant. On a déjà reçu des gens comme Miguel Benassayag, Michel Warchaski, Loïc Wakan, Svetlana Alexievitch, qui viennent. C'est un sujet donné. Il y a aussi un souci de la scénographie, de l'ambiance, etc. Et puis après, un public, en fait, qui arrivait très vite, qui a été présent très vite et qui, donc, peut poser toutes les questions à l'issue de cette conférence. C'est un modèle assez classique. En même temps, ces conférences, en général, où ces personnes sont plutôt invitées dans des universités, dans des forums sociaux, etc. Et là, ils se retrouvent dans un théâtre, dans une salle artistique. Et malgré tout, eux sont quand même souvent un peu déroutés pour commencer. Et puis, rencontrent un autre type de public. Et il y a vraiment des échanges très intéressants, très fructueux, qui se tissent pendant ces soirées-là. Donc, on n'est pas dans le cadre académique. On est dans des rencontres à la fois formelles et informelles, et c'est ça qui m'intéressait. Et puis au fil du temps, ce cycle, donc maintenant à 2 ans et demi, donc là, je vais proposer la 12e soirée Apache, et des partenariats évidemment se sont tissés au fil du temps. Ça m'intéressait aussi au tout début d'ouvrir cet espace à des collectifs bruxellois, qu'on pourrait dire émergents, et donc des gens comme par exemple l'ambassade universelle qui ont travaillé pendant X temps dans l'ancienne ambassade de Somalie et qui ont accueilli des sans-papiers, sont intervenus lors d'une conférence sur la question des frontières, etc. Bon, au fil du temps, j'ai dû resserrer quelque part le propos, et c'est vrai que c'est plus à travers vraiment la conception de certains pages spéciaux que je développe ces partenariats. Alors maintenant, par exemple, avec la librairie et les éditions Aden, qui sont donc il y a une maison d'édition indépendante qui vraiment travaille sur tout ce qui est critique sociale, contenu politique. Et donc on a créé avec eux cette année le Joli Mai, qui rentre dans ce cycle à Pâche, mais c'est un nouvel événement et c'est un salon du livre alternatif et de l'édition indépendante. Et donc ce type de partenariat, ou comme là on a avec Attaque, sur des moments plus forts, se marie, si tu veux, avec des soirées plus basiques, on va dire, où là c'est un intervenant, un sujet, et voilà. Donc ça c'est une chose, ça c'est pour ce qui est d'Apache. Et l'autre cycle, qui est le pendant, on va dire, poétique, donc là on est sur des soirées artistiques, avec propositions artistiques, mais on se concentre sur la poésie contemporaine, la littérature contemporaine, mais toujours en croisement avec la musique ou bien l'aspect performance. Donc je ne propose pas, si tu veux, des lectures basiques. Un auteur sort un livre, il vient lire son bouquin, enfin un extrait de son livre. Non, c'est à chaque fois choisir des artistes qui, soit dans leur écriture, soit dans leur... propose une dimension scénique performative à leur travail. Et donc souvent avec des liens, pour citer quelque chose d'assez connu, il y a eu par exemple Rodolphe Burger qui travaillait sur des textes de Jeanne Savitskaya, Olivier Cadio avec les Recyclers, donc concert lecture, lecture musicale, ou bien ça peut être aussi Anne-James Chaton, Andy Moore, enfin avec une vidéaste. Donc ce type de projet le centre, c'est quand même la question du langage, du texte, de l'écriture, mais à chaque fois traversé par d'autres influences, par d'autres apports artistiques. Et là aussi, quand même, de manière assez surprenante et positive, quelque chose qui n'existait pas du tout à Bruxelles a trouvé son public, et qui n'est pas un public... c'est un public à l'échelle de l'espace et à l'échelle de ce qui est proposé. Mais malgré tout, je suis assez satisfaite, si tu veux, sur une proposition quand même assez pointue, assez nouvelle, d'avoir pu assez vite rencontrer ce public qui se fidélise de soirée en soirée, avec au départ un rythme qui était mensuel et qui est devenu maintenant plus espacé de 2 à 3 mois, proposé donc une soirée millefeuille. Et donc avec aussi des développements, des nouvelles synergies qui sont créées, par exemple avec la revue Pylône, qui est une jeune revue littérature, art et philosophie, ou avec d'autres types de partenariats.
Retour au cœur de Bruxelles et changement total de registre après la rencontre avec Fabien Ocande et Aldous Scarbeck. C'est un ancien professionnel de la publicité, ancien patron de label indépendant, le label Elf Cut, organisateur de soirées, DJ, avec lequel nous faisons connaissance, Julien Bovy. Depuis un peu moins de 3 ans, il développe un magazine indépendant, Voxer. Voxer donne la part belle à la musique, plutôt électronique, plutôt indépendante, très internationale. Diffusé gratuitement en Belgique, mais aussi en Angleterre, à Paris ou en Allemagne, Voxer est aussi un bel objet graphique. Les articles sont ponctués par des illustrations imprégnées des cultures urbaines ou d'une sorte de pop art. Voxer vit grâce aux annonceurs privés, dans un équilibre sensible où la nécessité d'avoir des annonceurs ne doit pas nuire à l'esprit du magazine. C'est en plein centre-ville de Bruxelles que nous nous donnons rendez-vous. Julien Beauvie est venu avec une pile de ses magazines et quelques disques qu'il avait produits il y a quelques années. En ouverture, il nous livra son sentiment sur la vie artistique bruxelloise.
Disons que ça me semble assez difficile d'exister en tant que musicien ou en tant qu'artiste dans un premier temps ici à Bruxelles sans passer par des institutions ou des organisations. Comme je t'expliquais tout à l'heure, il y a très peu d'artistes qui émergent, je dirais, en dehors de nos frontières. Et si cela peut émerger, c'est des artistes par exemple comme Soldout, je dirais, ou des Girls in Hawaii, ou des Ginzu, je ne sais pas si tu as entendu parler d'eux. Ils font tous partie d'une espèce de même association, lobby, dont je te parlais, qui était un label qui s'appelle Bang, une radio nationale de niche qui s'appelle Pure FM, qui passe cette musique, des accords avec les FNAC ici pour mettre, tu vois, leur musique en tête de gondole, avec des partenariats et des choses comme ça. Au niveau de l'intégrité, donc de véritables artistes qui ont des intentions politiques, mystiques, spirituelles, resteront, je pense, confinés dans un underground de toute façon. Mais ça, je pense que c'est un petit peu général. Sauf, évidemment, des capitales comme Londres, justement, comme Berlin, ou Cologne même, tu vois, ou même Paris, où le rayonnement à l'extérieur est beaucoup plus facile. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà une histoire, je dirais, avec la scène française, qui est post-French Touch et tout ça, qui est en train de se passer quelque chose. Il y a un background, il y a une histoire. En Belgique, il n'y a rien de tout ça. On a très peu d'artistes, je veux dire, auxquels on peut s'identifier, d'exemples, des gens qui ont déjà réussi. Tu vois, surtout dans le domaine du rock, de la musique électronique. Donc, je pense que... vivre à Bruxelles ou essayer de développer quelque chose d'artistique et au niveau musical, ça me semble très très difficile et pauvre. Preuve, c'est que, par exemple, nous, par rapport à notre média, on parle pratiquement jamais. Je n'ai pas d'artistes à te citer, tu vois, que je me dis qu'ils ont un potentiel. Donc je pense que c'est assez difficile. Donc ma vision de la chose, elle est assez triste, tu vois. Donc je pense que Bruxelles n'a pas mis, ou la Belgique, enfin, la Belgique, c'est très différent. Je veux dire, du côté flamand, Gand, et ça, il y a un background avec tout ce qui est Deus, tous des groupes qui suivent, comme Millionnaires et tout ça. Ça, c'est assez différent et qui peuvent faire s'exporter. Mais à Bruxelles, c'est assez difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de structure. Il n'y a pas de label en dehors de ce gros label distributeur Bank. Il n'y a pas vraiment de structure qui permette de faire la chose. Tu as des grandes salles. Tu as les salles de spectacle comme l'ancienne Belgique, comme les Halles de Schaerbeek, mais qui ne vont pas forcément prendre de risques. Ou qui doivent organiser des mini-festivals en disant « sacré belge » et des choses comme ça. Ou alors, tu as des choses très underground, comme Recyclard, par exemple, mais qui génèrent un public qui est plus ou moins un petit peu toujours le même, et où, quelque part, ça tourne un petit peu en rond. Donc, je ne sais pas si j'ai correctement répondu à ta question, mais il n'y a pas non plus vraiment de passé. Je pense que la situation a toujours été difficile sur Bruxelles, puisque c'est de Bruxelles qu'on parle, hein.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'on souhaite continuer à vivre et à travailler à Bruxelles ?
D'une part, parce qu'on y est né, qu'on y a toutes ses attaches, et que je pense que l'esprit globetrotteur, eh ben, tu ne l'as pas forcément comme ça, que c'est très difficile de te décrocher d'un endroit où tu as toutes tes habitudes, toutes tes connaissances, sauf si tu as un esprit d'aventurier ou que tu te sens vraiment très très mal dans ta vie. Il se fait que Bruxelles est finalement une ville assez agréable à vivre. Parce que, en gros, tout le monde se connaît. Donc, c'est-à-dire que tu vas dans la rue, tu viens ici dans le centre, normalement, tu croises toujours quelqu'un avec qui tu peux discuter. Tu vas très facilement d'un endroit à l'autre. La mentalité des gens, elle me plaît assez. En tout cas, je veux dire, je ne parle pas spécialement de l'ensemble des gens, mais je trouve qu'il y a énormément de gens intéressants qui vivent ici. Et en tout cas, je pense que chez ces gens, il y a une profondeur, une sincérité, une gentillesse. Une ouverture sur les gens, une tolérance. Donc c'est ça, moi, je pense, qui me fait rester à Bruxelles. Mais en effet, développer une activité artistique un peu ambitieuse, sans dépendre d'organismes ou d'institutions, est quelque chose de très difficile. Mais au change, cette qualité de vie fait, je pense, que l'on y reste. Et puis cette ville, finalement, est assez centrale. Je veux dire, tu vas à Paris, tu vas à Londres, tu vas à Cologne très, très facilement, quoi. Donc je pense que c'est un avantage géographique aussi.
Quand tu as monté, après l'expérience du label, quand tu as monté Voxer, tu t'es posé toutes ces questions en te disant ça va être compliqué en termes de développement. Donc je vais l'appréhender dès le début en trouvant d'autres manières de développer, pour ne pas dire d'autres stratégies de développement.
Dans un premier temps, non. Dans un premier temps, mais très vite, je me suis dit que pour que l'activité puisse perdurer, qu'il fallait que je trouve des solutions. Et la solution a été en effet de s'internationaliser, de penser justement à cette construction de l'Europe qu'on continue à vivre, cette idée d'être européen du fait que Bruxelles aussi est une capitale de l'Europe. M'a fait penser qu'il était possible effectivement de rayonner à l'extérieur, évidemment en proposant un objet, un produit qualitatif qui pourrait intéresser à l'étranger. Là, on s'est fondé sur des compétences, sur des convictions qu'on a par rapport à soi-même, par une culture générale, des envies, une curiosité qui a toujours animé la plupart des personnes qui sont dans ce projet. Et pas très vite, mais c'est vrai que depuis quelques temps, je dirais depuis un an et demi, sachant qu'on est dans notre troisième année, on a envisagé le fait de s'installer ailleurs, du fait qu'il y a des moyens maintenant technologiques qui permettent de communiquer par Internet très facilement, sur MSN, enfin comme tu veux, avec du Skype et tout ça, très facilement de rester en contact avec plein de gens. On a failli et on a beaucoup pensé à s'installer à Barcelone, mais pour d'autres... Pour des raisons voilà, où tu sentais qu'il y avait vraiment une volonté de la ville, et très intelligente d'ailleurs, de se faire rayonner elle-même, tu vois, en devenant une capitale artistique, culturelle et tout ça, ce qu'elle a réussi à faire. Puisque je pense que là, il y a maintenant beaucoup de gens qui viennent. Elle, à nouveau, elle a l'avantage de sa situation géographique et tout ça. Le fait d'organiser des briefings et des réunions de travail sur la plage est très agréable. Mais toi, tu connais ça à Marseille aussi. Pour nous, c'est très étranger. C'était surtout le fait de pourquoi est-ce que on se dit parfois qu'il faut qu'on s'exporte. On gardera notre caractère spécifiquement belge, mais c'est parce qu'on va tomber dans des villes où justement il y a ces possibilités d'avoir du soutien, un soutien quelconque et des facilités dans toutes tes démarches pour te développer. Je confirme donc que ce n'est pas facile, c'est presque suicidaire de développer un projet artistique ambitieux sur Bruxelles. C'est ce que je pense, c'est ce que j'ai toujours vécu.
Thank you.
Julien Bovy nous laissa, outre ses magazines Voxer, quelques disques parus à la fin des années 90 et début 2000 sur son ancien label Elf Cut. On entend un aperçu de ses productions avec le musicien Rawa Kari. Nouvelle et dernière rencontre enregistrée de cette semaine bruxelloise avec l'association City Mind. Depuis 1997, City Mind travaille sur deux axes principaux. L'intervention dans les espaces publics, avec des artistes, architectes, habitants, passants, afin de traiter des problématiques de démocratie et développement urbain, ou de la grande question du vivre ensemble. Leur second axe de travail, interactif avec le premier, est celui des réseaux, ou plutôt de la mise en réseau par le web, par des supports papier, par des rencontres, d'acteurs culturels européens qui interviennent sur les mêmes champs, l'art dans la société, le développement durable, la vie de la cité. Aujourd'hui, City Mind a désormais aussi des bases à Barcelone et Londres. C'est dans leur bureau bruxellois, au sein d'un immeuble occupé par d'autres associations et artistes, que nous rencontrons trois des City Mind. Sophie Van Brustegem, Véronique Linard et l'un des fondateurs, Jim Segers. Notre rencontre s'ouvre sur le projet actuel de City Mind, Jim Segers.
Je sais d'où on vient, mais peut-être pas où on va. Je crois qu'au début, City Mind avait deux ambitions que j'espère qu'on a toujours. C'est d'un côté de faire des productions artistiques dans l'espace public, de l'autre côté de créer un réseau qui soutient d'autres artistes. Je crois que ça, c'est le départ. Et puis, le sujet était... il y avait trois volets dans des sujets. C'était la ville, la démocratie, ou ce qu'on appelle aussi la citoyenneté, et l'art. Et je crois que déjà en 97 qu'on a commencé, on a cherché sur le croisement des trois. Et qu'est-ce qu'il y a à faire d'intéressant dans les trois? Parfois c'était plutôt action politique, parfois c'était création artistique, et parfois c'était juste un travail de mettre en réseau et de soutien aux artistes. La création de réseau a toujours été une grosse partie de notre travail, et de là qu'on fait des choses comme ça. C'est un livre qui s'appelle Network Book. On en a fait trois, deux à Bruxelles et un à Londres. Et ça sert à deux choses. D'un côté, les artistes peuvent montrer leur travail. D'autre côté, les artistes se rencontrent pendant le processus, en faisant le travail. Ah, voilà. Ça, c'est la version bruxelloise. Donc, quand on a créé City Mind en 1997, on avait déjà une histoire d'action dans la ville, plutôt politique et activiste, disons, consistant d'occupation de bâtiments pour des travaux artistiques, mais à très très court terme, une dizaine de journées, des choses comme ça. Puis en 97, on s'est rendu compte que ça demandait beaucoup, beaucoup de temps et de travail de mettre en place une structure qui permettait ça. Au groupe de City Mind pour faire des actions politiques, au groupe des artistes pour se lancer là-dedans. Donc c'est de là que vient l'idée de créer cette association, cette ASBL, pour faire ça à plus long terme. Et de là, on s'est lancé plutôt aussi dans le rénovation urbaine. Rénovation urbaine, c'est ça, non? Renouvellement urbain. Un choix plutôt opportuniste, parce que en 97 et 18, il y avait beaucoup de possibilités de faire un travail artistique dans ce domaine-là. Je crois qu'entre temps, on est parti de là, et par exemple à Londres, on n'a jamais fait. Et je crois à Bruxelles, pour l'instant, on ne fait plus non plus.
Cette introduction du projet des actions de City Mind nous conduit naturellement à évoquer la question des réseaux et du sens qu'ils prennent dans l'action et les expériences. Véronique Linard.
Et là, c'est l'idée de visualiser ce réseau, mais par un logiciel Internet, donc virtuellement. Et donc, on a créé l'outil qui est dans sa première phase maintenant de développement. Et c'est l'idée de pouvoir valoriser ces réseaux en les faisant apparaître, c'est-à-dire de pouvoir cartographier par projet quels sont les partenaires qui sont impliqués, non seulement pour City Mind, mais à terme de permettre aux partenaires avec lesquels on travaille de faire la même chose et de pouvoir avoir comme ça un espèce d'énorme réseau qui peut être visualisé et qui peut permettre non seulement de soutenir les initiatives qui sont en place, mais aussi de nourrir des initiatives futures en se disant tiens, Ça peut devenir un annuaire aussi de pratique. Ça peut devenir un lieu de recherche en disant, tiens, sur Bruxelles, je cherche des gens qui travaillent sur les sujets Creative Commons et Radio Libre et qui le font de manière en gestion collective et je ne sais pas, en occupant des bâtiments. Je mixe complètement les types de textes qu'on pourrait trouver, mais voilà, et c'est pouvoir avoir aussi cette possibilité de recherche et donc de par là pouvoir nourrir des pratiques. C'est un, pour le moment, on développe le logiciel, comme je le disais, sur, centré sur CityMind comme exemple, je dirais, mais à terme, on voudrait pouvoir le présenter là maintenant en septembre et pouvoir élargir les personnes impliquées qui nourrissent le réseau pour septembre. Et donc cette présentation, on l'a fait du côté du 8 septembre, le 7 ou le 8.
Et vous le faites à l'échelle de l'Espagne, l'Angleterre et la Belgique, Bruxelles, Londres et Barcelone. Donc ce réseau rendu visible, il est à l'échelle des trois villes.
Indirectement, c'est plus que ça. Enfin, c'est tout de suite plus que ça parce que on travaille sur ces trois villes-là, mais sur ces trois villes-là, on rencontre d'autres personnes avec lesquelles on collabore. Et donc, déjà maintenant, rien que sur le réseau bruxellois, on a en tout cas des points à Grenoble, à Bordeaux. J'imagine qu'à Bruxelles même, on a des liens aussi avec Milan, mais qui sont par association dans ces cas-là. Les réseaux les plus larges pour CityMind sont forcément sur ces trois villes-là. Mais si on est en connexion avec, par exemple, cette assoce à Bordeaux, ben elle, si elle fait son réseau, elle va le développer sur Bordeaux, Grenoble, Paris, en tout cas, qui sont les trois villes sur lesquelles elle circule. Et voilà, donc à terme, ça risque d'être plus large que ça, même si le cœur est pour le moment tripartite. Ouais.
Ben pour moi, dans ce que tu venais de dire, mais sans que tu aies entré dans les détails, à Bruxelles, pour l'instant, comme on avait toujours travaillé dans des interstices, mais plutôt du côté urbanistique, allez, en faisant des projets qui touchent à des problématiques urbanistiques, là, on est parti aussi avec les trois villes dans une histoire beaucoup plus cadrée entre les trois villes, avec une théorie commune qui cadre des projets particuliers dans chaque ville. Et dans chaque ville, on a cherché des particularités basées sur de matériel plus ou moins chiffrables. Et à Bruxelles, notamment, c'était sur des problématiques plus économiques. Donc on a constaté que, comme dans chaque grande ville, il y a une grosse distance entre la belle histoire, les beaux chiffres qui disent, qui promouvoient un peu la ville en se disant « oui, c'est un beau pôle d'investissement, c'est une région... » Enfin, pour Bruxelles, en l'occurrence, c'est par exemple la deuxième région la plus riche en Europe après Londres. C'est un endroit où il y aurait, si on compte tous les habitants, il y aurait deux jobs, en fait, par habitant. Mais d'un autre côté, on constate qu'il y a un taux de chômage qui est élevé. Pour des capitales en Europe, c'est la deuxième plus haute d'Europe. Et il y a un rapport de pauvreté qui est à pleurer, quoi. Et donc, Bruxelles, en l'occurrence, ce grand écart entre les deux histoires, elle est énorme. Et donc, on est en train de faire un projet maintenant qui s'appelle Micronomics et qui joue aussi, vous le jouez dans la mobilité entre villes, mais nous, on cherche à trouver dans la ville même où pourraient être des liens, où est-ce qu'on pourrait trouver des ponts entre ces deux réalités qui ne se croisent pas du tout. Allez, c'est ce qu'on constate. Donc, mais je ne sais pas dans quelle mesure vous allez ou comment vous allez développer ça, mais pour moi, c'est très clairement un lien à faire. Donc maintenant, on est dans une phase où on a fait un workshop avec des gens, de nouveau, essayant de mettre un réseau en place avec des gens de contextes extrêmement différents. Donc notre réseau plus habituel d'artistes, graphistes, photographes, tout ça, avec lesquels on a l'habitude de travailler, complété avec des gens qui sont en train de monter leur petite structure, mais de manière plus ou moins alternative, pour ainsi dire, en termes de montage de coopératives ou être dans un esprit d'échange ou plutôt ça. Ajouter avec des gens qui travaillent vraiment dans le socio-économique et aussi niveau européen, parce qu'il fallait quand même avoir ce niveau-là aussi. Et donc, on a fait des workshops avec ce groupe-là pour voir si c'était possible de faire des interventions urbaines qui touchent à des problématiques économiques liées à la situation bruxelloise. Ça a été riche, ça a provoqué les gens à trouver beaucoup de liens, bien qu'ils disaient au début ouais, « l'économie, j'en sais rien ». Et ça a amené beaucoup d'informations et beaucoup de questions, surtout. Maintenant, on est dans une phase où on veut aller dans la rue avec un projet d'interview aussi, plus ou moins. Allez, on va faire un premier scan de lieu, parce qu'on est retourné au lieu brique-pierre qu'on a l'habitude de travailler, où on a le sentiment assez intuitif d'interstice qui est vraiment là, dans ce lieu-là. Et donc, on veut faire un scan... En faisant des interviews aussi de gens très divers, donc de gens qui viennent travailler de dehors de Bruxelles mais qui viennent à l'intérieur, des gens qui sont dans les quartiers avoisinantes et qui sont confrontés à une tour énorme de travailleurs, par exemple, et leur poser la question de ces deux histoires très, très diverses et voir quelles sont leurs réactions, voir comment ils se sentent par rapport à ça, voir si eux, ils voient des liens entre les deux ou pas, à faire ou qui existent déjà. Et donc, le but, c'est aussi en septembre de rassembler toutes ces informations-là dans un DVD, de faire déjà un pas plus loin avec des artistes qui en font des histoires ou des raps ou je ne sais pas quoi, pour avoir une autre approche. Mais donc, ça serait une première récolte de matière pour après aller beaucoup plus loin dans des projets plus concrets, voir des marchés alternatifs, des marchés avec des primo-arrivants qui montrent qu'ils peuvent aussi se mettre dans une situation d'entrepreneuriat, bien qu'ils sont complètement bloqués légalement par rapport à ça, le jour d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est une première phase dans un processus qui a envie de tester ça, les interstices économiques et faire des interventions urbaines et où est-ce qu'on peut aller dans ça.
C'est sur cette rencontre avec les équipes de City Mind que nous nous préparons à quitter Bruxelles. Nous n'aurons pu rencontrer bien sûr tous les acteurs culturels et artistiques de la ville pendant cette semaine et repartons avec une sorte de mystère, celui du cinéma indépendant Nova. Ce cinéma très actif, animé par des bénévoles, est considéré unanimement comme l'une des fortes expériences culturelles. Ça sera pour une prochaine fois. C'était Mobilhome à Bruxelles, une réalisation de Jérôme Matteo avec Gilali Amish pour Radio Grenouille. Remerciements à Étienne Noiseau et Fabienne Vilkin pour leurs conseils. À bientôt.
town, I'll be getting up and walking around. Ain't no grip, can hold my body down. Ain't no grip, can hold my body down. When the first trumpet sound, I'll be getting up and walking around. Ain't no grip, can hold my body down.
Mobilhome est un projet réalisé dans le cadre de l'année européenne de la mobilité des travailleurs par Système Friche Théâtre et Radio Grenouille Euphonia en partenariat avec l'association Coopérative dans le cadre de l'année européenne de la mobilité des travailleurs. Il est financé par la Commission européenne.
Prochaine escale Mobilhome à Riga en Lettonie, le dimanche 27 août à 10h, rediffusion le samedi 9 septembre à 16h30. Et retrouvez l'ensemble des documentaires Mobilhome en écoute à la carte sur le site www.grenouille888.org.